tout ça,
Non,
c'est
on
la
a un
sacré
logiste,
de
pas ça.
dans les nations dans lesquelles on vit matériel, tout ça, cette vérité, c'est le Shakti de Shiva.
Ouais.
Alors, tout ce qu'on voit ici, c'est son énergie. Je veux dire, nous, tout ça, là, c'est l'énergie, je veux dire, du Shakti de Shiva, là, le côté physique de l'univers.
On peut dire ça, mais disons pour un dévot, là, le dévot, lui, se concentre sur la source même de Shiva,
C'est Krishna.
c'est-à-dire Krishna lui-même. Et comme Krishna, il dit dans la Bhagavad Gita, je suis la source de tous ces mondes, matériels et spirituels. Alors, c'est ça, là. Krishna est la source de tout ce qui existe, alors, même de Shiva, même de Brahma. Alors, le Seigneur Shiva peut avoir un certain contrôle sur l'énergie matérielle. C'est lui qui est en charge ce qu'on appelle un Guna Avatar. C'est lui qui est en charge du mode de l'ignorance. Alors, et dans l'ignorance, qu'est-ce qui arrive dans l'ignorance? C'est qu'on veut plus que rien n'existe. Alors, l'ignorance, le Tamaguna, c'est un mode de destruction. C'est le Guna de destruction. Le Seigneur Shiva qui l'incarne. Alors, c'est comme le Seigneur Shiva peut être très facilement satisfait, mais faites attention si vous le mécontentez, parce qu'il peut être très rapide aussi et vous infliger, disons, des torts très très substantiels. Alors, il y a une histoire dans le quatrième chant du Srimad Bhagavatam. Il y a un dévot qui s'appelait Daksha, et qui justement a fait une offense au Seigneur Shiva parce qu'il voyait seulement le côté matériel du Seigneur Shiva. Il est malpropre, il est couvert de cendres, et puis ses disciples, c'est des fantômes, puis des ci, puis des ça. Alors, il critiquait le Seigneur Shiva, mais par contre, le Seigneur Shiva, c'est un grand Vaishnav. Il est toujours en méditation sur Krishna, sur Vishnu. Alors, c'était une grande offense et il a dû payer le prix. Alors, il s'est ramassé à un moment donné avec une tête de chèvre, quelque chose comme
C'est
ça.
ça, oui, c'est exactement ça.
Alors, c'est... Faut être prudent et respectueux des Vaishnavas. Voilà. Alors, on salue Ananda qui vient de
Allez,
se joindre.
Krishna.
Allez,
Allez,
Krishna,
Krishna,
Ananda.
Ananda. Allez, bon.
Allez, allez, bon. Alors, on va faire le cours, finalement, là. Ça répond à la question, Madame Ananda?
Oui, merci. Oui,
OK. Alors,
merci beaucoup.
on va entamer le cours. Alors, on est à la page 143. Ah non, attends une minute.
2, 142.
142.14.5.
C'est ça.
Alors, on va relire quand même le 14.4 pour lier, parce que le 14.5, c'est la suite, là. Alors, je vais le lire, puis attends, on va commencer par le commencement, là. Alors, Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
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 Om Namo
Bhagavate
Bhagavate
Vasudevaya.
Vasudevaya.
Srila Prabhupada ki jai.
Jai.
Alors voilà. Virginie, voudrais-tu lire, s'il vous plaît, 14.5?
14.4.
14.4, 4, s'il vous plaît.
14.4. L'homme conscient de Krishna doit éviter toute habitude alimentaire centrée sur le seul plaisir des sens. Il est une expression en Inde en lien avec les
Non, non,
brahmanas.
non, non, on saute ça et ensuite fait 14.5. Là, on va voir c'est quoi.
D'accord. 14.5. Ce qui comprend l'usage de grandes quantités. Ce qui comprend l'usage de grandes quantités de piment rouge et de tamarin. Il doit aussi complètement rejeter le haritaki, mirio bolan, la noix de Bethel, le pain et diverses épices utilisées dans sa préparation, ainsi que le LSD, la marijuana, l'opium, le tabac, l'alcool, le café et le thé, tous destinés à satisfaire les désirs des sens. Quant aux épices comme le piment rouge et le tamarin, il doit en faire un usage modéré, sinon la nourriture passe sous l'influence de la passion. 14.6. Si nous prenons l'habitude de n'accepter que les reliefs de la nourriture offerte à Krishna, nous pourrons nous libérer de l'emprise de Maya. Le prasad est qualifié de pavoshadi, la nourriture prescrite pour guérir de la maladie de l'existence matérielle. Le saint nom du Seigneur est aussi appelé Bhavoshadi, Bhavoshadi, c'est-à-dire le remède pour guérir de la maladie appelée Bhava, c'est-à-dire la répétition de la naissance, la maladie, la vieillesse et la mort. Oshadi signifie remède. 14.7. Les légumes, céréales, fruits et produits laitiers, de même que l'eau, sont propres à l'offrande au Seigneur, ce que Sri Krishna lui-même enseigne dans la Bhagavad Gita. C'est ce que Srila Prabhupada nous explique dans la teneur et portée de la Bhagavad Gita, chapitre 9, verset 26. 14.8. Toutefois, n'accepter la nourriture sanctifiée que pour sa saveur, ce qui souvent conduit à en consommer trop, consiste également à devenir victime des exigences de la langue. Tel qu'on le disait précédemment, la ligne est fine entre Krishna et Maya. Maya, c'est ce toujours se frayer un chemin à travers la langue et un manque de vigilance. Oh, je peux me le permettre, ce n'est pas grave. Et hop, on se laisse aller à manger plus que nécessaire. Et tel qu'il est dit dans le mantra 1 par Srila Prabhupada, la langue, l'estomac et les organes génitaux sont en ligne droite dans le corps. En situation d'excès, ça commence par l'un et ça finit par l'autre. 14.9. Sri Chaitanya Mahaprabhu nous a recommandé d'éviter les mets hautement savoureux. S'agirait-il même de prasad? Bala na kaibe ara bala na paribe. Ne portez pas de vêtements somptueux et tenez-vous à l'écart des aliments délicieux. Chaitanya Charita Amrita Antia 6.236. Voici le verset en question. Gramya kata na sunibe gramya vartana kaibe. Balana kaibe arabala na paribe. Gramya kata, les propos ordinaires d'hommes aux ordinaires. Na shinbe, ne jamais entendre. Gramya varta, nouvelles ordinaires. Na kaibe, ne pas parler. Bala, bien. Na kaibe, ne pas manger. Ara et bala, joliment. Na paribe, ne pas s'habiller. Ne parlez pas comme les gens en général et n'écoutez pas ce qu'ils disent. Vous ne devez pas manger des aliments trop appétissants ni vous habiller très élégamment. Il n'y a pas de teneur et portée de Srila Prabhupada pour ce verset. Nous devons comprendre le contexte. Il s'agit d'une instruction du Seigneur Chaitanya Aruganatha Dasa Goswami. Il va de soi pour un Goswami de suivre strictement cette instruction. Ça va de pair avec l'ashram auquel appartient un sannyasi. En français, on appelle l'ashram en question l'ordre du renoncement. 14.10.
OK, est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Om Ekyana Timirandasya Granjana Sanakaya Chaksurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Alors, si on vous pose la question, supposons que quelqu'un, dans son mode de vie, s'estime très heureux d'avoir des sens qui sont satisfaits. Quelle est sa position?
Il est soumis. Il est
à la passion.
La passion et l'ignorance.
Ouais.
Il est soumis à ses sens puisqu'il cherche à les satisfaire. En fait, nos sens doivent satisfaire Krishna.
Il sert la matière.
Oui. Mais disons, supposons que, bon, on suppose bien des choses, là, que c'est un dévot de Krishna. Et que lui, il aime bien manger. Et quand il mange bien. Il se prive de rien. Et les légumes, en tout cas, une assiette typique de Prashad, là, les sabji, comme on dit, puis même les sucreries à la fin, tout à la perfection. Puis supposons que c'est en plus quelqu'un qui a un poste de responsabilité dans ISKCON. Alors là, il y a toutes les matadjis du temple qui viennent y apporter des assiettes, puis avoir donc. La vie est belle. Est-ce qu'il y a un danger là-dedans?
Dans tous les plaisirs des sens.
Moi,
Maya est là.
Maya est là, oui, jusqu'à un certain point, mais disons, dans quelle mesure elle n'est pas là?
Quand on passe à Krishna, puis on s'abandonne à lui, elle ne peut rien faire. C'est tout
Oui,
qui
mais c'est pas...
est Krishna.
Comme par exemple, là, je sais pas si on va en parler, mais peut-être un petit peu plus loin, mais les sannyasis dans ISKCON, les swamis qu'on appelle, eux autres, c'est tout le temps comme ça. À chaque offrande, ils ont comme un statut spécial, là. Ils reçoivent une belle assiette de prasad, puis du maha-prasad en plus. Puis, est-ce qu'il n'y a pas... Je pose la question, hein? On parle pour parler, là. Je ne veux pas critiquer. C'est pas le but. Est-ce qu'il y a un danger là-dedans?
Oui.
Ça dépend de leur
Ah, OK. On a un oui. Est-ce qu'il y a des non à quelque part?
Moi, je dis que ça dépend. Ça dépend de la relation qu'a le Swami avec Krishna. Parce que si c'est de la nourriture sanctifiée, que c'est pas justement que pour sa saveur et que qu'il le consomme, voilà, et c'est qu'il mange le prasad après qu'il ait été sanctifié. Si c'est un swami, pour moi, y a pas de danger, en fait. En même temps, on vient de lire que le Seigneur Chaitanya disait qu'il fallait pas manger trop de mets savoureux.
Mais
Alors,
moi je dirais qu'il faut qu'il montre l'exemple justement et que il peut faire honneur d'une certaine manière, peut-être en goûtant un petit peu dans chaque, mais ne pas finir par exemple toutes les assiettes, ou juste ceux qui auraient des moyens de toujours respecter voilà les principes et entre guillemets les principes, parce que voilà, c'est reste du prachat, hein. Je veux
ouais,
dire,
quand même.
il y a pire comme nourriture. Mais voilà, c'est ce que je sais pas.
Mais le danger d'avoir des plaisirs peut nous amener ailleurs. C'est dit que tout est sur une ligne droite,
Moi,
l'essence.
je dirais oui, ouais.
Oh,
Il y a une différence entre, mettons, on pose la question encore, là, juste pour, on tourne autour d'une certaine problématique. En fait, ça n'en est pas, mais y a-t-il une différence entre une assiette de Maha Prashad, disons, les mêmes assiettes, même quantité, même variété de Maha Prashad, une qui est offerte à un dévot ordinaire du temple, puis l'autre qui est offerte au Swami. Est-ce qu'il y a une différence entre les deux?
Tous les deux, c'est des assiettes prasadam qui ont été offertes à Krishna. C'est la même valeur.
Oui. Alors, on va répondre. Alors, l'idée, c'est que le Swami, lui, est supposé d'avoir figuré ça depuis longtemps. Parce que sinon, il n'y aurait pas le titre de Swami. C'est que le prasad, même si c'est du prasad, il faut savoir faire preuve de modération. Ça, il est supposé d'avoir... En général, les swamis finissent jamais leur assiette. Beaucoup de swamis. Alors, il en reste tout le temps pour les autres. Et à ce moment-là, le Mahaprasad qu'ils ont reçu, ça devient encore plus Mahaprasad. C'est appelé, quand c'est... On prend le prasad qui a été offert à un autre dévot, en particulier un swami ou au maître spirituel, ça devient du Mahaprasad. Vous suivez? Alors, ils mangent bien souvent les swamis dans le temple. Ils vont manger un petit peu, puis ils laissent le reste de l'assiette aux dévots. Puis là, les dévots vont partager ça entre eux autres, et puis jusqu'à temps qu'il n'y en ait plus, et puis c'est comme ça que ça se passe. Si c'est au dévot ordinaire du temple, lui, il n'a pas nécessairement figuré encore que même si c'est du prachad, il faut que tu saches te modérer un peu. Alors, il peut avoir peut-être un excès. Puis là, ben, il y aura des conséquences qui viendront avec. Si ça tourne comme ça, d'un autre côté, Srila Prabhupada disait aux dévots, dans les débuts du mouvement, c'est « chant and be happy », chantez et soyez heureux. Puis la prière du prachad, c'est « maintenant prenons ce prachad à notre pleine satisfaction et rendons grâce au Seigneur Shri Radha et Krishna et nous implorons l'aide de Chaitanya Nitai ». Ça, c'est la recette, pas la recette, la prière d'avant tous les repas de Prashadam. Alors, comme c'est dit ici, là, dans les pages qu'on lit ou qu'on va lire, il faut savoir que même si c'est du Prashad, il faut pas trop en consommer. Alors, quel est le critère? Qu'est-ce qui est la pleine satisfaction pour un dévot? C'est trop de satisfaction pour un autre dévot. Et personne ne peut être artificiel non plus. T'sais, si t'es un dévot et on t'offre du prachat, ou par exemple, au temple, quelqu'un t'a fait l'assiette, t'as même pas eu à faire ton assiette, mais soit il y en a trop, à ce moment-là, c'est dire, ben, il y en a trop, ben, remets-les dans... Moi, c'est ce que je fais, là, si jamais ça m'arrive. Si quelqu'un me fait une assiette, puis il y en a trop, moi je vais dire, ben remets-moi ça dans le contenant là, dans lequel c'est venu. J'ai pas mangé encore, c'est correct. Et puis faut savoir tenir sa ligne, disons pas la ligne physique, mais je veux dire la ligne spirituelle, là, simplement. Mais ça peut pas être artificiel. Parce que si on fait semblant d'être renoncé, qu'est-ce qui va arriver? On va avoir faim. On sera pas plus avancé que t'es supposé d'être conscient de Krishna. T'es pas supposé d'être conscient de ton estomac qui est à moitié vide puis que t'as fait exprès pour qu'il soit à moitié vide puis t'es pas satisfait. Vous suivez? Alors, faut manger à sa satisfaction. Et, comme Prabhupada dit, le plus vous êtes avancé spirituellement, le moins les activités de manger, dormir, s'accoupler, se défendre vont aller en descendant. Fait que plus on est avancé spirituellement, on est moins accaparé par les demandes des sens. Parce qu'on a, on préfère être conscient de Krishna que justement être esclave des sens. Mais ça se fait graduellement, ça. Alors, les swamis, eux autres, sont supposés d'être arrivés là. Et moi, je prends pour acquis qu'ils le sont. Et c'est correct. C'est la conscience de Krishna qui veut ça comme ça. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? OK. Alors, on va continuer. Ananda, est-ce que tu voudrais... Ah,
Oui.
attendez une minute, attendez une minute. J'ai un autre petit point à faire. Bon. On va discuter encore. Moi, j'ai mis ici comme note aujourd'hui le danger de se croire heureux à satisfaire des sens ou avoir des sens satisfaits. Mais un danger là-dedans, et ce n'est pas écrit noir sur blanc aujourd'hui, mais c'est dans le Srimad Bhagavatam, dans le premier chant, 8e chapitre des prières de la reine Kunti. Et la reine Kunti dit, dans une prière, elle dit, quelqu'un qui est bien heureux matériellement parlant ne peut pas s'adresser à Krishna avec, comment qu'elle dit ça donc? Avec une grande sincérité. Ça, et Prabhupada le dit ça dans la teneur portée. Quelqu'un qui a beaucoup d'opulence, beaucoup de richesse, et qui est heureux matériellement parlant, n'est pas capable de s'adresser à Krishna avec beaucoup de sincérité parce que justement, il y a cette opulence-là matérielle qui est dans le chemin. Est-ce que vous suivez?
Oui, c'est une forme de confort en fait. Il s'est installé dans un confort et tu cherches pas plus loin, tu te poses pas de questions, tu te laisses porter par la vague en fait.
Exactement. Alors, dans ici aujourd'hui, on a lu une citation, le point 14.9. C'est 14.9, c'est le Seigneur Chaitanya qui instruit Raghunath Das Goswami, puis lui dit, ne portez pas de vêtements somptueux et tenez-vous à l'écart des aliments délicieux. Alors, Raghunath Das Goswami, ces instructions-là, disons, il les a comme implorées du Seigneur Chaitanya. Parce que le Seigneur Chaitanya, dans un premier temps, il lui dit, si tu veux des instructions, là, il dit, va voir Swarup Damodar. Mais avant qu'il aille voir Swarup Damodar, lui, il voulait avoir des instructions directement du Seigneur Chaitanya. Alors, Seigneur Chaitanya lui dit, ben, si tu veux en avoir directement de moi, ben, voici mes instructions. Alors, Seigneur Chaitanya lui a donné à peu près, je peux pas dire le nombre exact, mais pas beaucoup d'instructions. Mais celles qu'on vient de lire, là, ne parlez pas comme des gens, ne parlez pas comme les gens en général et n'écoutez pas ce qu'ils disent. Vous ne devez pas manger des aliments très appétissants, ni vous habiller très élégamment. Ça, c'est une des instructions du Seigneur Chaitanya. Il y en avait à peu près peut-être trois, quatre. Peut-être 5, 6 maximum des versets du Seigneur Chaitanya direct à Raghunath Das. Et là, après, quand le Seigneur Chaitanya a fini, il dit, OK, va voir le dévot que je t'ai dit d'aller voir, Swarup Damodar. Et puis là, ben, il va avoir des instructions de Swarup Damodar. Alors, ça, c'en est une instruction qu'on vient de lire aujourd'hui. Et voilà. Ça, c'est, disons, je voulais faire ce commentaire parce que le commentaire de la reine Kunti, c'est important. Alors, il y a une question, comme Prabhupada dit, dans la conscience de Krishna, il y a juste une qualification, c'est quoi? Pour être conscient de
Sincère.
Krishna, ça prend la sincérité. Il faut être sincère. Alors, on peut avoir des défauts, on peut avoir des imperfections, mais si on est sincère d'accepter la voie de la conscience de Krishna, les bonnes choses vont arriver pour nous. On va se purifier et puis on va faire du progrès spirituellement parlant. Alors, c'est ça. Alors, il faut faire attention. Et les versets d'aujourd'hui ou qu'on a lus ou qui vont suivre, ça c'est la base de la conscience de Krishna. Et c'est toujours bon de se rappeler la base pour être conscient de Krishna. Parce que Maya est subtile et il y a toujours moyen pour Maya de, s'il y a un manque de vigilance, de s'infiltrer puis de d'influencer dans le mental un dévot. Alors voilà. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires?
Petite Maya, de nous influencer dans le dévot. Est-ce que c'est elle, la petite voix qu'on a dans la tête des fois, de dire la petite tentation, là, c'est qu'on l'attend pas, mais on la sent, c'est-tu elle qui nous guide là, sur des choses pour nous mettre dans la trappe, là, je sais pas. Là.
Ben, aussitôt qu'on oublie vraiment notre obligation de servir le maître spirituel en suivant ses instructions ou les shastras ou les... Maya est prête à intervenir. Alors, comme on disait, on a lu ça tantôt, tel qu'on le disait précédemment, la ligne est fine entre Krishna et Maya, ligne 16, page 143. Maya sait toujours se trouver frayer un chemin à travers la langue et un manque de vigilance. Oh, je peux me le permettre, ce n'est pas grave, et hop, on se laisse aller à manger plus que nécessaire. Alors, il y a bien d'autres façons, là, bien d'autres activités que Maya peut susciter. Ça, c'est juste un petit exemple. Et voilà. Mais toujours est-il, comme c'est dit, la langue, c'est très important de contrôler et maîtriser la langue parce que c'est, si on maîtrise la langue, on maîtrise le reste. Alors, comme on a lu tantôt, 14.6, si nous prenons l'habitude de n'accepter que les reliefs de la nourriture offerte à Krishna, nous pourrons nous libérer de l'emprise de Maya. Mais oui, prendre du prasad, mais avec une certaine prudence, pas d'excès, autant que possible. Et puis penser à Krishna quand on mange le prasad, à méditer justement que ça, c'est les reliefs de la nourriture offerte à Krishna. Et remercier Krishna. T'sais, un non-dévot, lui-là, là, que ce soit du prasad, pas du prasad, en avant de lui. Comme ils savent tellement bien dire, bon, je ne veux pas critiquer, mais je suis obligé de critiquer, que ce soit les Français ou que ce soit les Québécois, comment qu'ils appellent ça la nourriture qui est en avant d'eux autres? La bouffe. Alors pour eux autres, c'est de la bouffe. Même si tu leur présentes une assiette de prasad, ils sont pas nécessairement arrivés à penser autrement. Ah, ça, c'est de la bouffe. Mais ça va venir par la grâce de Krishna, par la grâce du prasad. Et un jour, ils vont comprendre que c'était pas une nourriture ordinaire, c'est la nourriture offerte à Krishna, une nourriture spirituelle. Alors, on est chanceux d'avoir une éducation spirituelle qui nous permet justement de faire la distinction entre la nourriture matérielle qui n'est pas offerte à Krishna et la nourriture spirituelle qui a été offerte à Krishna. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Ananda, est-ce que tu voudrais lire 14.10?
Oui. 14.10. On devient également prisonnier des exigences de la langue si l'on offre au Murti des mets succulents avec l'intention de s'en régaler par la suite. Une autre forme de boire de l'eau sous l'eau. Mais l'âme suprême ne peut être dupée. Elle voit tout, entend tout et sait tout des moindres pensées secrètes. 14.11. Il en est de même si l'on accepte l'invitation d'un homme riche dans l'idée de se voir offrir une nourriture savoureuse. Même stratagème du même
Akabi.
Akabi, pardon, merci. 14.12. Le Chaitanya Charitamrita, Antia 6.227, enseigne Jivara la lassé. Yehi iti uti daya sisnodara parayana Krishna nai paya. L'homme esclave de sa langue est sans cesse affairé à satisfaire les moindres désirs de ses organes génitaux et de son estomac ne peut atteindre Krishna. Jivara, de la langue, lalasé, à cause de l'avidité, yehi, toute personne qui, iti, uti, ici et là, daya, va, shisna, organes génitaux, udara, ventre, parayana, consacré à Krishna, le Seigneur Krishna, nadipaya, n'obtient pas. Celui qui est asservi à la langue et qui va ainsi et là, dévoué aux organes génitaux et au ventre, ne peut atteindre Krishna. Ce verset englobe nombre de matérialistes qui ne sont pas maîtres de leur sens, qui, au contraire, sont esclaves de leur sens. Un dévot de Krishna se doit par ses résolutions de ne pas en faire partie. Il évite leur association et apprécie l'atmosphère favorable de l'assemblée des dévots. Il est disposé à payer le prix qui s'impose. Tel est signe de son abandon à Krishna.
Ouais. Est-ce qu'il y a des
Ouais.
questions, des commentaires?
L'association est importante.
Ouais,
Faut bien s'associer.
l'association est importante. Pourquoi que l'association est importante? Supposons, vous êtes en train de prêcher, là, puis quelqu'un vous pose la question, pourquoi est-ce que l'association est importante?
Avoir la possibilité de parler de Krishna plus souvent avec les dévots que le monde de l'extérieur. On a une opportunité énorme. Krishna, il est là avec les dévots tout le temps. Tandis qu'avec le monde comme de tout le monde, prendrait un miracle pour qu'il prononce le nom de Krishna. Non, pas sa langue.
Autre commentaire?
Mais il y a aussi qu'on dit toujours, on a tendance à dire souvent quand on est jeune ou des parents à leurs enfants, ah, cette personne a une mauvaise influence sur toi, tu devrais arrêter de, ou tu dois pas fréquenter cette personne, ils vont avoir une mauvaise influence sur toi. Donc, il y a déjà en fait cette conscience de l'influence que les autres ont sur nous. Et donc, ça fait du sens de vouloir aussi aller vers une association de personnes qui vont vers plus de la vertu que de la débauche ou d'autres choses. Voilà, qui n'aide pas à se sortir de tout ça. Et
Exactement,
avec qui on peut vraiment discuter des bonnes questions, et voilà.
parce que si on parle d'association, le principe d'association tout court, c'est que on devient ce avec quoi on s'associe. Alors, comme Prabhupada donne un exemple, si on s'associe avec des voleurs, on va devenir un voleur. C'est normal. Alors, si on s'associe avec des dévots, on va devenir dévots. Alors, comme Prabhupada dit, nous avons créé ce mouvement, la conscience de Krishna, pour donner la chance aux personnes de s'associer avec des dévots. Alors, ce n'est pas un mouvement anodin, ce n'est pas un mouvement ordinaire, où tout peut passer. C'est comme par exemple dans les médias, là, mettons la télévision en particulier ou le journal, mais mettons plus la télévision pour cibler ce média-là. Tout peut passer. Dans quelle mesure que tout peut passer, savez-vous?
Dieu que le monde accepte.
Une réponse, y a-t-il d'autres critères? On reformule la question.
Le monde
Est-ce...
écoute.
Oui, mais on reformule la question. Pour la télévision, qu'est-ce qui passe et qu'est-ce qui ne passe pas?
Trop vulgaire, ça ne passe pas.
Non, trop vulgaire, ça passe. Aucun problème. Surtout au Québec. Plus c'est vulgaire, mieux c'est. C'est supposé de démontrer l'authenticité des
Oui,
Québécois.
c'est vrai.
Ça passe. Aucun problème.
Plus t'es religieux, plus on vient
C'est
te mettre
ça.
la laïcité dans la figure en te disant non, la religion, tu l'as fait chez toi et surtout t'en parles pas.
C'est exactement ça. Tout passe sauf Dieu. Et Dieu, lui, passe pas. Alors que ce soit la religion d'un tel ou un... En fait, c'est toutes les religions, peu importe, qu'elles soient justifiées, pas justifiées, authentiques, pas authentiques. Tout ce qui s'appelle religion.
Voilà. Sauf quand elles ont leur chaîne, parce que maintenant, on détourne la chose, c'est que, en fait, les religions ont leur chaîne. Donc là, pendant toute la journée, par exemple, il y a une chaîne qui s'appelle Kato, et tu es un lourd toute la journée, tu suis toutes les messes, tu suis tout, en fait, tout ce qui se passe à Lourdes tous les jours, la bénédiction à la grotte et tout, tu suis. Et je sais que chez les musulmans aussi, ils ont leur chaîne, les évangélistes, ils ont leur chaîne, et en fait, les religions se mettent dans leur chaîne. Mais sinon, à la télévision basique, normale, que tout le monde écoute, les chaînes, voilà. Ah oui, tout ce qui est religieux, c'est limite interdit, quoi.
C'est ça, ça passe pas. Alors, c'est comme, par exemple, nous allons avoir le Rata Yatra à Montréal. Et moi, chaque année, je regarde voir, disons, si ça donne. Est-ce que, pourquoi ils font pas un reportage sur le Rata Yatra? Tu sais, des défilés à Montréal, il y en a. Il y en a à tous les, il y en a assez souvent, surtout en été, là. Tel groupe, tel ceci, tel cela. Mais pour les Krishna, c'est à peine s'il va avoir dans le Journal de Montréal un petit paragraphe de peut-être 10 lignes, c'est beau. Perdu dans le journal, à quelque part. À peine s'ils font ça. Mais ça passe pas. Ça passe pas. C'est malheureux que ce soit comme ça. Alors, c'est l'âge de Kali, comment dire, la religion est en perte de vitesse, si on peut dire. Et c'est malheureux, mais c'est comme ça. Alors voilà. Alors, si on est des dévots de Krishna, puis on a une chance, comme par exemple, il va y avoir le Ratha Yatra, les 4 et 5 juillet, ici à Montréal. Alors, quand les gens viennent au parc Jeanne-Mance, ils viennent dans notre cour. Alors là, on n'a pas besoin d'avoir peur de parler de Krishna, parce que les gens s'attendent à ça. Puis il y en a qui ne demandent pas mieux, justement, que d'entendre parler de réalisation spirituelle. Puis c'est Jai, go for it. Et puis, perdez pas de temps. Disons, les dévots, je trouve ça un petit... Ça, c'est ma petite critique personnelle, là. La théâtre, c'est beau. Oui, les dévots se rencontrent, puis ils se parlent entre eux autres. Puis là, des fois, moi, je trouve ça un petit peu too much, le genre, ils sont assis ensemble, ils parlent pas au monde. M'excuse, là. C'est la même chose pour la fête du dimanche. C'est le même principe. Les invités viennent. Faut parler aux invités. C'est ce qu'on appelle prêcher la conscience de Krishna. Là. Je vois pas comment qu'on peut appeler ça autrement. Puis c'est comme ça qu'on fait des dévots en parlant de Krishna. Voilà, ça c'est mes commentaires personnels. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? OK, on va continuer. Bon, on est rendu à 15, module 15. Les exigences de l'estomac. Virginie, s'il vous plaît. Oups, on
Les
change.
exigences de l'estomac. La langue, l'estomac et les organes génitaux se trouvent, nous l'avons vu, sur une même ligne dans le corps et sont étroitement liés. Ceux qui souffrent de maladies de l'estomac n'ont certes pas pu en maîtriser les demandes, selon notre analyse précédente. Dès que nous désirons manger plus que nécessaire, nous créons naturellement toute une suite de désagréments. Si au contraire nous observons les jours de jeûne tels que l'Ekadashi et la Janmashtami, nous maîtriserons les exigences de l'estomac. 15.1. La langue, l'estomac et les organes génitaux se trouvent, nous l'avons vu, sur une même ligne dans le corps et sont étroitement liés. 15.2. Ceux qui souffrent de maladies de l'estomac n'ont certes pas pu en maîtriser les demandes selon notre analyse précédente. Il a été dit auparavant que l'alimentation sous le mode de l'ignorance provoque des maladies douloureuses et en fin de compte une mort prématurée. Ajoutons à cela ce qui est dit si haut, ceux-là qui souffrent de maladies de l'estomac n'ont certes pas pu en maîtriser les demandes. Ne pas en maîtriser les demandes, manger trop surtout et manger n'importe quoi, quitte à manger des aliments sous le signe de la passion, que faut-il dire d'aliments sous le signe de l'ignorance? Après tout, dans le Kali Yuga, où est la vertu? Les gens sont influencés par la majorité, pour la majorité, par la passion et l'ignorance. Leur nourriture va avec. Les gens souffrent de maladies qu'ils auraient pu éviter s'ils avaient un peu de connaissances sur l'influence des trois gunas et comment ceci conditionne leur vie. La souffrance, la maladie, n'arrive pas nécessairement par hasard. Elles sont des réactions à des actes commis antérieurement. Comment un dévot ne peut-il pas être compatissant à l'égard des gens infortunés du Kali Yuga? Personne n'est sorti de l'auberge dans le Kali Yuga. 15.3. Dès que nous désirons manger plus que nécessaire, nous créons naturellement toute une suite de désagréments. Nous trouvons un exemple au point 12.2. 15.4. Si au contraire nous observons les jours de jeûne tels que l'Ekadashi et la Janmashtami, nous maîtriserons les exigences de l'estomac. Il n'y a rien de mieux pour apprendre que l'expérience pratique. Le jeûne est une expérience des plus pratiques. Veut pas, il faut passer à travers et endurer les désagréments du jeûne s'il y a. Cependant, ces désagréments ne constituent qu'un côté de la médaille. L'autre côté de la médaille s'avère une acuité accrue favorisant grandement la méditation sur Krishna. Le tout par la force des choses. Pour oublier le jeûne, la méditation sur Krishna en chantant le Mahamantra Hare Krishna ou en faisant des services lors de jours de jeûne tels le Kadashi et Janmashtami. Au terme de ces jours, on peut ressentir une satisfaction de l'avoir fait, mission accomplie, instruction du maître spirituel suivie à la lettre, bienfait spirituel promis et obtenu. Et tel qu'il est dit ici, bientôt les exigences de l'estomac se réduiront. C'est un fait. Si l'on tire parti, après tout, de l'expérience que l'on peut vivre en mangeant moins. Pourquoi donc? Parce que manger moins peut aider à se concentrer davantage sur Krishna. Mais rien ne devrait être fait artificiellement, se fiant au jeûne pour une autre fin que de se concentrer davantage dans la conscience de Krishna. Lors d'une promenade matinale à Paris, Srila Prabhupada me dit personnellement que plus on progresse spirituellement, plus les activités de manger, dormir, se reproduire, se défendre deviennent réduites à zéro. Srila Prabhupada me donna alors l'exemple de Rupa Goswami, qui ne dormait qu'une demi-heure, une heure par jour, et parfois même pas du tout. Mais Srila Prabhupada avait ajouté qu'on ne pouvait pas imiter cela. Quant à lui, il dormait 3, 4 heures par jour. Nous présentons à l'appui un court extrait d'une interview avec un éditeur religieux de l'Associated Press le 16 juillet 1976 à New York. George Orwell. Je crois savoir que vous travaillez beaucoup à la traduction et que vous ne dormez que 2 heures par jour. Est-ce exact? Prabhupada. Pas 2 heures, je dors environ 4 heures.
Jai, fin du
Ouais.
commentaire.
Ouais, c'est vous, vous passez les pages, c'est terminé.
Ouais. Est-ce que des questions, des commentaires? Ouais, Prabhupada, quand il venait au temple de Paris, on faisait attention de pas faire de bruit dans le temple, même pendant la journée. Au temple, ça je l'ai déjà dit dans les cours, quand on était sur la rue Le Sueur à Paris, il y avait un ascenseur. Et c'était une porte ordinaire, là. C'était pas les ascenseurs avec les portes qui s'ouvrent, qui se ferment automatiquement. C'était vraiment, disons, une porte, comme on ouvre n'importe quelle porte. Et là, les dévots, eux autres, quand laissés à eux-mêmes, c'est claque la porte, pour une raison ou pour une autre. Et quand Prabhupada entendait ça, puis l'ascenseur arrivait dans sa chambre aussi, ça le dérangeait, ce claquement de porte-là. Fait qu'à un moment donné, le Prabhupada a demandé à son serviteur de passer le message que ça dérange. Et puis là, les dévots ont vraiment fait attention. C'était comme faire prendre conscience aux dévots d'un phénomène qu'ils font tous les jours, qui passe inaperçu, de claquer des portes. Et Prabhupada disait que ceux qui claquent des portes, c'est des gens non civilisés. Les gens non civilisés vont claquer des portes. Et c'est quand on y pense bien, là, quand on se le rentre dans le coco, que justement mettre ça en pratique, effectivement, c'est faisable. N'est pas obligé de claquer la porte. Pour que ce soit n'importe quel genre de porte, la porte d'une armoire, t'es pas obligé de claquer la porte. Tu peux vraiment retenir, faire ça qu'il n'y a pas de bruit. Tu peux le faire. C'est une habitude que quelqu'un peut prendre. Et après, tu peux observer justement qui c'est qui claque les portes et quel genre de caractère ces personnes-là ont. Tu peux faire le lien entre les deux. Et la passion et l'ignorance, ça vaut ce que ça vaut. Mais c'est faisable. C'est tout à fait faisable. C'est pas quelque chose d'impossible. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? OK. Alors, on va continuer. Ananda, s'il vous plaît, numéro
Oui.
16.
Les pulsions des organes génitaux. Quant aux pulsions des organes génitaux, elles se divisent en deux ordres, celles qui sont acceptables et celles qui ne le sont pas. Soit les rapports sexuels licites et illicites. L'homme, s'il est réfléchi, peut se marier selon les règles établies par les écritures révélées et utiliser ses organes reproducteurs pour engendrer de bons enfants. Voilà ce qu'on entend par acte sexuel licite, en accord avec les principes de la religion. Mais autrement, il s'efforcera par toutes sortes de moyens de satisfaire les exigences de ses organes génitaux, parfois sans retenue aucune. Si l'être se livre à des activités sexuelles illicites, soit par la pensée ou en faisant le projet ou l'objet de conversation, en accomplissant l'acte lui-même ou en stimulant les organes génitaux par des moyens artificiels, le voilà aussitôt sous l'emprise de l'illusion Maya. Ces enseignements, tels que les définissent les écritures révélées, ne sont pas destinés au seul chef de famille, Grihastha, mais aussi aux Tyagis
Ceux qui...
excusez-moi, je viens de me fatiguer. Ceux qui ont embrassé l'ordre du renoncement. Pardon. À cet égard, Sri Jagadananda Pandita écrit dans le 7e chapitre de son livre Prema Vivarta, Vairagi Bhai Gramya Katana Sunibekane, Gramya Vartana Kaibe Yabe Milibehane, Svapane Onakara Bai Stri Sambasyana, Grie Stri Chadia Bai Asiyachavana, Yadi Cha Pranaya Rakite Gorangera Sane, Chota Ari Dasera Kata Takeye Namane, Bala Na Kaibe Arabare Na Paribe, Ridayete Radhakrishna Sarvada Sevibe. Ô mon frère, tu as pris l'ordre du renoncement et ne dois donc prêter l'oreille à nul propos matériel, ni débattre de choses temporelles avec les autres. Ne pense pas aux femmes, ne serait-ce qu'en rêve, car tu as embrassé l'ordre du renoncement et prononcé le vœu qui t'interdit tout rapport avec elles. Aspirant à vivre en compagnie de Chaitanya Mahaprabhu, tu dois toujours te souvenir de l'incident de Chota Haridasa, et de la manière dont le Seigneur le bannit de sa présence. Ne te nourris pas de mets savoureux, ni ne te couvre de vêtements élégants, mais reste toujours humble et sers leur grâce, Sri Sri Radha et Krishna, du plus profond de ton cœur. 16.1. Quant aux pulsions des organes génitaux, elles se divisent en deux ordres, celles qui sont acceptables et celles qui ne le sont pas, soit les rapports sexuels licites et illicites. L'acte sexuel n'est pas interdit pourvu qu'on sache dans 1. Quel cadre et 2. Pour quelle raison il peut être accompli. Il peut être fait sous conditions appropriées seulement. Pour un dévot, la condition n'est sous conseil de Pierre, Jean, Jacques, sexologue ou tout autre log que vous voulez. La consigne est établie par les shastras, les écritures védiques. Il n'est aucun risque de se tromper en suivant les règles. La marche à suivre est suffisamment scientifique pour en assurer les résultats, à savoir de bons enfants. Et de bons enfants sont garants d'une population paisible dans la société. De nos jours, comme les gens font des enfants plus ou moins par accident, pour ne pas dire comme chien et chat, les résultats sont une population, génération après génération, qui gagne en dégradation, n'en déplaise à qui que ce soit. Année après année, les vacheries, les actes d'ignominie conséquentes vont toujours en croissant. Tout cela, en quelque part, est lié aux relations illicites qui n'en ont que faire de suivre les règles. Au diable les conséquences, elles s'en lavent les mains.
Jai,
16 points,
qu'est-ce...
Jai.
Oui, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires?
Sur ce point-là, la propagande qui est transmise aux enfants très jeunes, la maternelle, c'est rendu que c'est des asuras qui ont le contrôle comment sont éduqués ces enfants jeunes sur le côté sexuel. C'est comme c'est pas normal. C'est dans une terre décadente en ce moment. Je sais pas si vous êtes au courant.
Non, pas très au courant parce que je me fais pas un point de suivre les grandes avancées en détail dans ces domaines-là, mais who cares? Pour moi, c'est comme Prabhupada dit, là, il y a quatre principes, ça c'en est un. Disons, là, on le lit assez, c'est très explicite. À savoir, ben Prabhupada l'a toujours dit, le sexe n'est pas interdit, mais c'est pour faire des enfants. Mais pas des enfants n'importe comment ou par accident. C'est des enfants qui viennent parce que les parents ont prié, ont chanté, ont imploré la miséricorde de Dieu pour avoir de bons enfants. Alors, comme Prabhupada a instruit, dans ISKCON, mari et femme, s'ils veulent avoir des enfants, ben il faut avoir une relation sexuelle pour avoir des enfants. Ben au préalable, c'est de chanter 50 tours de japa avant. Alors, tu fais tes 50 tours, là, il y a bien des chances, tu devrais être dans bonne mentalité pour faire un enfant, si vous voulez. Commentaire, question? Ouais. Pour les matérialistes, pour eux autres, c'est genre le plus jeune, ils peuvent, Le mieux, c'est la liberté. Mais Prabhupada disait que si un garçon s'abstient de relations sexuelles jusqu'à l'âge de 25 ans, il ne sera pas malade le restant de sa vie. Par contre, si c'est le contraire, regardez qu'est-ce qui va leur arriver quand ils seront dans un âge plus vieux. Il y a des chances qu'ils vont être sujets à la maladie et puis ils vont souffrir. Pas un cadeau, ça. D'autres commentaires ou questions?
Derrière tout acte, il y a une réaction. Donc, automatiquement, en fonction de la voie qu'on choisit, voilà, si on suit les principes, les quatre principes, on est à l'abri on n'est pas à l'abri de maladies, on ne sait pas ce que la vie nous réserve, mais en tout cas, on est à l'abri d'avoir des conséquences immédiates d'actes répréhensibles qui sont liés par le non-respect des principes.
Exactement.
Parce
On n'est pas
que
obligé de, ouais.
excuse-moi.
On n'est pas obligé de se mettre la main dans le feu. C'est plus intelligent de ne pas se mettre la main dans le feu. On n'est pas obligé de se mettre dans le feu. Alors, sur les quatre principes, c'est appelé les principes de la liberté dans la Bhagavad Gita. Alors, liberté, justement, affranchissement de conséquences malheureuses dues justement au manque de maîtrise des sens, manque d'engagement des sens dans la conscience de Krishna. C'est aussi simple que ça, là. OK. Autre question, commentaire? On le voit dans la société d'aujourd'hui. Comme là, on vient de le voir, là, à Montréal, il y a quelques jours, à peine quelques jours, un gars qui tire sur une femme, des policiers, qui en tue deux ou trois, là. Où est-ce qu'avait la tête, ce bonhomme-là? OK, on continue. 16.2. Ananda, s'il vous plaît.
Oui. 16.2. L'homme, s'il est réfléchi, peut se marier selon les règles établies par les Écritures révélées et utiliser ses organes reproducteurs pour engendrer de bons enfants. Il est intéressant de noter les mots l'homme, s'il est réfléchi. Que veut dire un homme réfléchi? On peut se référer à la Bhagavad Gita 2.69 pour avoir une meilleure idée de ce que ça veut dire et à quel homme ces propos s'appliquent. Ya nisha sarva bhutanam tasyam jagrati samyami yasyam jagrati bhutani sa nisha pasyato mune. Ya de qui, ce qui, nisa et la nuit, sarva de tous, bhutanam les êtres vivants, tasyam en cela, Jagati est éveillé, Samyami, qui est maître de lui, Yasyam, dans quoi, Yagrati, sont éveillés, Bhutani, tous les êtres, Sa, c'est, Nisa, la nuit, Pashyata, introspectif, Mune, pour le sage. Ce qui est la nuit pour tous les êtres est le temps de l'éveil pour l'homme maître de soi. Et ce qui pour tous est le temps de l'éveil est la nuit pour le sage introspectif. Teneur et portée. Il y a deux sortes d'hommes intelligents. L'un va se servir de son intelligence sur le plan matériel dans le but de jouir de ses sens, quand l'autre va l'utiliser d'une manière introspective pour s'ouvrir à la réalisation spirituelle. Les actions du sage introspectif, de l'homme réfléchi, sont, pour l'homme imprégné de pensées matérielles, obscures comme la nuit. Ignorant son identité spirituelle, le matérialiste sommeille dans cette nuit. Le sage réfléchi, au contraire, reste vigilant dans la nuit du matérialiste. Il ressent une joie transcendantale au fur et à mesure qu'il progresse sur le sentier de la réalisation spirituelle, tandis que le matérialiste endormi, fermé à la réalisation spirituelle, rêve de divers plaisirs sensoriels, éprouvant dans son sommeil tantôt de la joie, tantôt de la peine. L'homme introspectif est toujours indifférent aux joies et aux peines inhérentes à l'existence en ce monde. Il poursuit son évolution spirituelle sans être troublé par les circonstances. La mentalité d'un homme réfléchi ou introspectif est bien différente d'un homme dont la toile de vie repose sur la satisfaction de ses sens et dont la plus haute forme de jouissance culmine dans l'acte sexuel. Il en est fort différent pour l'homme réfléchi, habitué à faire preuve de maîtrise des sens, en sachant dire non aux tentations de toutes sortes, licites ou pas. Toutes ces décisions sont basées sur l'adhésion aux enseignements des sastras, du guru et de Krishna. C'est simple pour un homme qui est béni de la détermination pour le faire. Il y a une ligne à suivre et il sait de quel côté il faut se tenir. Il ne pense même pas à la traverser par conviction ou expérience. Il n'est peut-être pas un saint à 100%, mais il a la foi et la détermination de rester fidèle aux instructions de son maître spirituel avant tout. Et c'est ça qui le protège de toute infortune. Un tel homme est prêt dans tous les sens du mot s'il veut fonder une famille dans le cadre du mariage.
Jai, est-ce qu'il y a des questions?
16.3.
De... Non, non, non.
Voilà ce qu'on entend par acte sexuel. Ah.
Hello.
Ah, vous, t'essaies de parler, c'est ça?
Oui, c'est ça.
Oups.
Alors, est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? C'est assez clair, hein?
Est-ce que vous m'entendez?
Oui, on t'entend.
Ok, vous m'entendiez parce que moi je vous entendais pas. Est-ce que vous parliez?
Oui. Quand tu as
Ah.
fini le paragraphe, on voulait, dont je voulais parler, là,
Ah, ben, désolé.
on va pas aller
Oups.
plus loin que 16.2, là.
Ok, j'ai eu un petit problème avec mon ordi, en fait, pendant un moment, donc c'est pour ça que je pense qu'il y a eu un petit problème avec mes écouteurs. Désolé.
Non, pas de problème. On a entendu qu'il y avait une différence dans la voix.
Ah, donc ça doit être ça, oui. Donc c'est ça. Bon, désolé.
Pas de problème. Alors, est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Alors, moi, je peux faire un commentaire. D'après ce qu'on vient de lire, la maîtrise des sens est pratiquement impossible si on n'a pas l'amour d'un maître spirituel pour maîtriser, donc je veux dire, si on n'a pas de fidélité à un maître spirituel par amour pour lui, et justement d'être prêt à payer le prix, suivre ses instructions et d'être maître de ses sens. Pour l'amour du maître spirituel, c'est le maître spirituel qui nous guide, qui nous demande justement de faire preuve de maîtrise des sens. Est-ce que ce n'est pas lui? C'est le maître spirituel qui nous a mis sur la voie et qui veut qu'on reste sur la voie à suivre les principes, à embrasser de tout cœur la conscience de Krishna. Le maître spirituel, lui-même, est un exemple d'un dévot qui adhère à 100% aux principes, à un mode de vie conscient de Krishna. Alors, le disciple ne peut pas faire autrement que de suivre. Et dans la mesure où le disciple est fidèle, il n'y a aucun problème. Le disciple est protégé. C'est merveilleux comme ça. C'est la protection que le maître spirituel donne à ses disciples. Si les disciples suivent justement les instructions. Et j'ai lu récemment, justement, Prabhupada qui disait, il parlait à un dévot qui, pour une raison ou pour une autre, le dévot avait comme un choix à faire. Là. Soit il suit les quatre principes ou soit il ne les suit pas. Et Prabhupada disait que, là je résume, ok? Prabhupada lui donnait le message que bon, ben si tu ne suis pas les principes, il dit, moi je ne peux pas te protéger. Alors, c'est clair, net et précis. Alors, on peut avoir la protection du maître spirituel, mais dans la mesure où on suit les principes qu'il enseigne, qu'il donne. Et puis, si jamais on a une certaine difficulté avec ça, qu'est-ce qu'on fait? On peut en parler. On peut chercher dans l'association des dévots si on peut avoir un certain soutien, certains éclaircissements, quelqu'un à qui on peut parler. Ou... Il faut faire quelque chose. Mais Guru, Sadhu, Shastra. Alors, Guru, le maître spirituel, Sadhu, les personnes saintes, Shastra, les Écritures. Il y a moyen d'aller chercher une protection, un réconfort, une compréhension, un éclaircissement dans ces sources-là. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Ben, on va s'arrêter là. Merci beaucoup d'être venu au cours. C'est toujours très apprécié. Et puis, je vais continuer à parler avec Virginie et Ananda juste pour le projet de livre, là. Le Chaitanya Charitamrita. Ce sera pas long. Merci beaucoup,
Merci beaucoup, Prabhu.
Madhavananda.
Merci.
Merci. Hare Krishna, à samedi.
Merci beaucoup.
À samedi.
Oui, à
à
samedi.
samedi.
Hare
À
Krishna.
samedi, Prabhu.
Oui, allez, allez, bon.
Allez, allez, bon.
Allez, bon. Alors, voilà. J'ai deux chapitres du volume 2 de Chaitanya Charitamrita Antyalila que je peux vous faire parvenir. Là, c'est une question de s'entendre. On pourrait se faire un zoom pour discuter de comment ça marche, qu'est-ce que, etc. Alors, qu'est-ce qui ferait votre affaire? Dimanche ou un autre moment? Ou...
Ça peut être dimanche.
OK, dimanche. Dimanche, à quelle heure ça ferait votre affaire?
Toi, tu préfères quoi, Pablo?
Pardon?
Toi, tu préfères quoi, toi, le matin, l'après-midi?
Moi, je préfère toujours le matin, mais ça peut être n'importe quand qui fait votre affaire.
Moi, je proposais le matin, j'allais proposer le matin.
OK.
Parfait.
OK, le matin à quelle heure?
Moi, c'est, j'ai pas de,
Comme
c'est
vous
Ananda,
voulez.
on a 1 heure de décalage avec Ananda, donc, qu'est-ce qui te conviendrait, Ananda, comme horaire, toi?
Peu importe, ça peut être 8 heures pour vous, 9 heures pour moi, 9 heures pour moi, 10 heures pour
9 heures
moi,
pour
neuf
nous,
heures
dix
pour vous.
heures pour toi, je sais pas.
Comme vous voulez.
OK.
Non, mais c'est
Alors.
bien 8 heures, 9 heures, non, je sais pas, c'est trop tôt. C'est trop
Pour
tôt,
moi.
8 heures?
Pour moi, là?
Non. Non, non, non.
Non. Non,
Non, pour vous, non, pas vous, c'est...
non. Donc 8 heures pour vous dimanche?
OK. 8
9
heures,
heures?
8 heures,
Qu'est-ce
heure
que...
de Montréal.
Ouais.
Virginie, qu'est-ce que tu veux? C'est bon ou pas?
C'est parfait.
OK. Dimanche matin, 8 heures de Montréal. OK. On fait ça comme ça. Alors, je vais vous envoyer deux chapitres et oui, c'est ça. Je vais vous envoyer deux chapitres. Regardez ça et n'attendez pas que les explications viennent. Faites un petit exercice de ménage pour justement regarder, voir qu'est-ce qui va pas avec les textes, puis voir, ben oui, ça marche pas, telle chose, si vous voyez quelque chose. Puis on va s'en parler
Parfait, d'accord.
dimanche. D'accord?
Ça marche.
D'accord.
Merci pour vous.
De rien, ça nous fait plaisir. Et prenez soin de vous.
Merci, toi aussi. Hare Krishna.
Hare
Hare
Krishna. Et à
Krishna.
samedi,
Oui,
déjà.
à
À
samedi.
samedi.
À samedi.
Hare Bol,
Merci,
Hare
merci
Bol.
beaucoup. Hare Krishna.
Allez,
Allez, bon.
Krishna.
Jai.
Jai.
Allez, bon. Jai, yo.